Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition consacrée à l'art contemporain. Le 11 mai prochain, la Biennale de Venise ouvrira les portes de sa 58e édition et ne les refermera que le 24 novembre. L'occasion de se pencher sur un marché qui a généré l'an dernier 63 milliards de dollars et dominé par les États-Unis qui ne laissent pas beaucoup de terrain aux Européens et dans lequel sont apparues ces dernières années de nouvelles régions. La Chine bien sûr, mais pas seulement. D'autres nations de la zone asiatique et d'Amérique latine et l'Afrique participe à la scène artistique mondiale. Regard sur l'état de l'art, les contradictions d'un marché certes mondialisé mais qui reste dominé par une poignée de pays essentiellement occidentaux. Et cette question, comment expliquer que la Chine, seconde puissance économique, ne soit pas devenue le principal concurrent du soft power américain? Notre invitée, Nathalie Obadia, galeriste spécialisée dans l'art contemporain. Elle possède deux galeries, l'une à Paris, l'autre à Bruxelles. Également enseignante à Sciences Po et auteure de Géopolitique de l'art contemporain, paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Bonjour.
Bonjour.
L'art contemporain comme outil d'influence, comme marqueur de puissance, vous écrivez que l'art mesure le degré d'émancipation d'un pays, son pouvoir d'attraction, sa place dans le monde, qu'il est une boussole des relations entre États. Le pouvoir de l'art, quel état des lieux et quels enjeux géopolitiques sur l'échiquier mondial. Nathalie Obadia, le pouvoir de l'art, de quoi est-il question ?
Il est question du rayonnement d'une nation, mais aussi du rayonnement de ceux qui possèdent l'art, c'est-à-dire les collectionneurs privés, les fondations et les musées. Aujourd'hui, le pouvoir de l'art se voit aussi à travers les visites des musées qu'on peut faire à travers le monde. Donc tout ça se rejoint et à la fin, il s'agit du rayonnement d'une nation, du rayonnement d'un monde aussi occidental, de valeurs qui s'exporte. Et le fait qu'aujourd'hui, comme vous le rappeliez, il y ait 63 milliards d'échanges annuels dans pour tout ce qui touche les œuvres d'art, montre aussi que c'est un moyen, un levier financier très important.
Alors, vous parlez du rayonnement, et j'aimerais qu'on passe un certain temps sur la question des États-Unis, la prédominance, l'hégémonie américaine. Je le disais en introduction, les États-Unis qui ne laissent pas beaucoup de place à l'Europe, on y reviendra. En première de couverture de votre ouvrage, vous posez la question, une remise en cause de l'hégémonie américaine, point d'interrogation, est-elle possible ?
Elle est possible. Simplement, il faut se mettre à plusieurs, ce qui est un petit peu contradictoire, on va dire d'une certaine façon, parce que les États-Unis sont au-delà d'une nation extrêmement puissante. Ils ont réussi à se réinventer en imposant un soft power, en l'adaptant, si vous voulez, à des problèmes sociétaux. Donc c'est là où, effectivement, c'est très difficile de les contrer, puisque au-delà d'une population, justement, d'artistes blancs qui étaient des hommes, ils ont très vite, dans les années 80, mis en avant des artistes de minorités sexuelles. Puis aujourd'hui, les minorités ethniques sont aussi tout à fait valorisées, ce qui fait qu'ils s'adaptent, si vous voulez, à l'avancée de problèmes sociétaux. Donc d'un côté, on a peut-être Trump avec une certaine image, mais de l'autre côté, quand on visite les musées américains et les foires américaines, on s'aperçoit que finalement, l'Amérique est très diverse et qu'elle donne une image plutôt très positive de l'avancée, justement, de problèmes économiques, philosophiques, ethniques. Et donc de l'autre côté, nous avons beaucoup plus de difficultés en Europe, puisque c'est un ensemble de différents pays, il n'y en a pas un qui peut effectivement être aussi puissant que les États-Unis en face.
Alors, pas un, il n'empêche que il y a deux pays en Europe, on parle beaucoup de l'axe américano-anglo-germain, la place de l'Allemagne en Europe.
Alors, la place de l'Allemagne est tout à fait intéressante, puisque dès 1945, avec cette défaite après la Seconde Guerre mondiale, donc les États-Unis, pour faire barrage évidemment à l'avancée de l'Union soviétique, et pour aussi des raisons tout à fait économiques, se sont, on va dire, implantés en RFA, ce qui était à l'époque la RFA. Et c'est là où l'Allemagne, on va dire, a une attitude, je pense, très pragmatique, très intelligente, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un sursaut national où les Allemands se sont dit, il faut maintenant face à ce qu'on peut voir de l'art américain en Allemagne en RFA, se montrer en tout cas très actif. Et dès 55 avec Documenta, en 1967 avec la création l'organisation de la première foire d'art contemporain à Cologne, plutôt que de rejeter cet art américain, même s'il n'en avait pas vraiment les moyens, ils se sont construits ensemble. Donc à un moment donné, et on le voit encore aujourd'hui dans les musées allemands, vous avez côte à côte les artistes américains avec les artistes allemands. Et donc tout ça s'est retrouvé après sur le territoire américain, où il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une large partie de la population, large, qu'il était encore plus en tout cas il y a 50 ans, qui est quand même d'ascendance allemande. Donc il y avait, si vous voulez, un regard, on va dire, très positif sur ce qui se passait là-bas. Et donc on le retrouve aussi aujourd'hui dans les musées américains, comme on le retrouve sur le marché. Aujourd'hui, après les Américains, les artistes américains d'art contemporain, ce sont les Allemands qui sont aujourd'hui les plus recherchés et les plus chers, et dans le monde entier.
Et quelques mots aussi, Nathalie Obadia, sur les Anglais.
Les Anglais, qui sont les cousins, on en parle toujours de ces cousins proches des États-Unis, qui n'ont jamais été complètement dans l'Europe, comme on le sait encore plus aujourd'hui, ce sont eux, on va dire, émancipés de cette tutelle américaine sur le plan des arts plastiques. Alors, d'une manière assez intéressante, puisque ça s'est fait surtout à l'ère Thatcher, qui était plutôt une ère d'ultralibéralisme, où elle a vraiment décidé, d'un moment donné, d'affirmer justement la personnalité du Royaume-Uni. Et c'est là qu'on a vu apparaître une école d'artistes menée par Damien Hirst, qui s'appelle les Young British Artists, avec d'un autre côté le collectionneur Saatchi, il faut toujours un collectionneur prescripteur qui entraîne, et de l'autre côté aussi évidemment une tête moderne qui après a été créée, puis une foire anglaise qui a été créée, la foire Frise. Donc il y a eu tout un ensemble, si vous voulez, d'actions dans les années 80 jusqu'au début des années 2000 qui fait qu'à un moment donné, l'Angleterre aussi a pu proposer une alternative à l'art simplement américain.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, la France, dans tout cela, évidemment, vous en parlez dans votre ouvrage, Nathalie Obadia, vous parlez d'un certain isolement de la France aujourd'hui en matière artistique, avec cette contradiction tout de même qui veut que la France ait un savoir-faire, notamment muséal, on en parlera. Mais qu'est-ce qu'il manque à la France aujourd'hui pour rayonner davantage dans le monde de l'art? Quelles ont été les erreurs? Est-ce que, en particulier, les Français ont trop négliger la peinture qui semble revenir, on l'a vu récemment.
Alors, les choses sont en train de changer, mais pendant 45-50 ans, il y a eu un ensemble effectivement de facteurs qui ont fait que d'une certaine manière, on n'a pas fait partie justement de ce renouvellement artistique. Déjà parce qu'on s'est figé sur à partir des années 45-50, on se vit sur un art plutôt moderne. Voilà, il n'y a pas eu cette notion d'avant-garde qui fait qu'à un moment donné, on regarde un pays tout à fait différemment. Il y a eu aussi le fait qu'on se soit méfié de tout ce qui... Enfin, quand on dit « on se soit », c'est en tout cas un grand nombre d'intellectuels français et d'artistes qui regardaient avec beaucoup de méfiance ce qui se passait aux États-Unis et qui étaient beaucoup plus proches des idées marxistes. Voilà, donc à un moment donné, on avait plus peur de ce qui se passait des États-Unis que de ce qui se passait de l'autre côté. Puis il y a eu aussi la politique gaulliste, cette espèce d'exception culturelle qui fait qu'on est indépendant et qu'on n'a pas à regarder ce qui se passe complètement du côté, toujours pareil, des États-Unis, qu'on n'est pas complètement intégré à ce qui doit se faire en Europe, en tout cas. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu aussi une coupure entre des artistes qui pouvaient être assimilés au marché. Donc, qui dit marché dit capitalisme, dit rejet, si vous voulez, d'une part de ce qu'on appelle les test-makers, c'est-à-dire effectivement les intellectuels qui faisaient la scène artistique. Donc ça, effectivement, ça a figé, puisque de l'autre côté, comme il y avait une absence de marché privé, ce sont plutôt les inspecteurs, on va dire, des arts plastiques. Toute cette politique a été mise en place par Jack Lang sous l'ère Mitterrand, qui ont été, on va dire, pratiquement les seuls commanditaires. Donc ils mettaient en avant des artistes qui étaient plutôt reconnus pour faire des installations, pour occuper des espaces institutionnels. Et donc il y a eu une coupure totale qui s'est faite entre ce qu'on pouvait appeler le marché privé et effectivement les commandes de l'État.
Alors, vous disiez que pour la France, les choses étaient en train d'évoluer, Nathalie Obadia. Ce qui est tout à fait intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est de constater cette perméabilité entre art et politique.
Bien sûr, il y a le fait que peut-être l'État ayant moins d'argent à consacrer à la culture, cela permet effectivement d'adopter d'autres habitudes. Alors déjà, le fait que les artistes aujourd'hui, cette nouvelle génération d'artistes, j'en représente un certain nombre, je les vois, n'hésitent pas maintenant à aller faire des études à l'étranger, parler anglais, s'installer pour un moment soit aux États-Unis, soit en Allemagne ou même dans des pays plus éloignés comme en Australie par exemple. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une on se rend compte, ces artistes se rendent compte que le monde est beaucoup plus vaste et qu'il faut revenir peut-être en France, travailler en France, mais il faut avoir une connaissance quand même du monde, voilà, du monde de l'art international. Donc déjà, les artistes sont beaucoup plus autonomes. C'est le cas aussi des galeries. Il ne faut pas oublier que nos galeries, nous faisons entre, on va dire, 10 et parfois 15 expositions dans le monde entier. Donc, on a quand même une certaine expérience. On se rend compte qu'on ne peut pas rester enfermé. Et c'est le cas aussi des conservateurs et des, voilà, des décideurs aujourd'hui de se rendre compte qu'il faut s'ouvrir au monde et effectivement être plus perméable à ce qui se passe. Et puis aussi savoir maintenant adopter des pratiques artistiques qui étaient autrefois décriées comme notamment la peinture.
Alors, Nathalie Bobdia, on poursuit avec l'Europe. Il y a deux pays sur lesquels il me semble intéressant de se pencher quelques instants. On a parlé du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne. C'est la Belgique, la Suisse. Alors, il y a un troisième pays, et c'est l'Italie, qui est un pays particulièrement intéressant à étudier.
Alors, l'Italie est tout à fait intéressant, puisqu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est incapable de donner le nom de 5-6 artistes contemporain, qui est une reconnaissance internationale. Donc ça, c'est vraiment un problème. Les deux ou trois derniers qui sont plutôt connus, dont justement Marossi et Catella, nous sont allés vivre aussi aux États-Unis assez vite. Et l'Italie aujourd'hui reste un peu figée sur une école très classique qui est soit l'Arte Povera, qui d'une certaine façon est devenue aujourd'hui vraiment très classique, des artistes comme Fontana, par exemple. Ça donne une idée un petit peu ce qu'était la nôtre, puisque je pense qu'on est en train de changer aujourd'hui, d'un art plus classique et qui n'est pas tourné vers l'art contemporain. Et qui est, par contre, acheté aujourd'hui dans le monde entier, puisque des ventes aux enchères, d'ailleurs, d'art italien, sont consacrées par les deux plus grandes ventes à Londres, ce qui montre que le marché est tout à fait international, mais figé sur un art qui est aujourd'hui, on va dire, moderne.
Alors, la Belgique et la Suisse.
Alors la Belgique, ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit pays proportionnellement au nombre d'habitants. Il y a une liste d'artistes aujourd'hui extrêmement importants, reconnus à l'étranger, que ce soit des artistes comme Luc Teumans, Wim Delvoye, Yann Fabre, ou des plus jeunes comme Berlin de Brucker. Les Belges, alors on va me dire, oui, ce sont des artistes flamands.
Oui, c'est la question,
voilà,
que j'avais posée.
Donc, alors on m'a posé la question hier, c'est justement un collectionneur. J'ai dit, peut-être que c'est une forme de résistance de la part des Flamands dans cette Belgique, de montrer leur spécificité, tout en restant quand même très belge. Hein. Donc ils jouent un peu sur les deux tableaux. Et puis c'est vrai que leur stratégie, moi je l'ai vu pour certains que j'ai nommés, a été au début des années, dans les années 80, de comprendre que le marché était surtout américain et allemand, et que la stratégie justement de leur galerie et d'eux-mêmes était d'occuper ces musées allemands, bon ils le sont moins aujourd'hui, ainsi que les musées américains, et il n'y avait pas des œuvres pour tout le monde, il y en avait pour surtout ces deux pays prescripteurs. Donc en matière de stratégie, ils ont été excellents pour pouvoir être très présents aujourd'hui. La Suisse est très intéressante, puisque la Suisse a quelques artistes très reconnus, mais on voit que, pour ne pas les nommer, Randy Nonet et Urs Fischer passent beaucoup de temps d'ailleurs aux États-Unis. Donc ça prouve que le marché s'est quand même déplacé là-bas très concrètement. Alors évidemment, la Suisse est un pays de grande fortune. Et puis surtout, elle accueille la foire la plus importante du monde, qui est Art Basel, créée en 1970, au moment où il a fallu contrer la création de Art Cologne en 1967. Et surtout, l'image de la Suisse, l'image de Art Basel, qui s'est répandue dans le monde entier grâce à la création de Art Basel Miami en 2001, et ensuite le rachat d'une petite foire Art Basel Hong Kong il y a maintenant 5 ou 6 ans, fait que, évidemment, Art Basel donne une image de la Suisse extrêmement importante. Voilà, c'est une marque, et que elle a réussi justement par ce nom, puisque maintenant on dit on va Art Basel Hong Kong, Art Basel Miami. Voilà, donc on est obligé de donner les deux noms. Donc ça, le pays s'est en tout cas très renforcé grâce justement à cette foire.
Alors, on reviendra sur la question des foires et leur rôle en particulier sur ne serait-ce que la qualité de l'art. De ce que vous venez de dire, et on va passer après ça, on va poursuivre notre tour du monde de la production artistique contemporaine, Nathalie Obadia, ce que j'ai entendu dans ce que vous nous avez dit, c'est que finalement, c'est tout de même aux États-Unis que se fait l'essentiel de la production artistique aujourd'hui, et qu'un artiste, pour réussir, a comme passage obligé un séjour aux États-Unis, voire une installation définitive. Vanity.
Alors, on va nuancer, évidemment, j'en ai parlé pour les artistes d'huile dont on a parlé. Les Belges habitent tous, sont restés en Belgique, comme les Allemands sont restés en Allemagne. Alors, je dirais que pour nuancer, New York reste la caisse de résonance. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un artiste allemand, un artiste belge, un artiste français, enfin, le Graal va être montré au MoMA, va être montré dans les grands musées américains. Et évidemment, le marché, c'est effectivement d'être reconnu dans les grandes ventes de New York, qu'on appelle ces fameuses evening sales d'art contemporain, où on regarde la liste. Si on regarde aujourd'hui la liste, c'est, on va dire, plus des deux tiers d'artistes américains. Ensuite, ce sont des artistes allemands, un peu d'artistes anglais et les artistes français. Jusqu'à très récemment, grâce à Soulages, n'était représenté qu'avec des artistes décédés comme Yves Klein ou Dubuffet. Donc je dirais que c'est pas tant le lieu de production que le lieu de reconnaissance. Voilà. Alors ça se fait évidemment grâce aux collectionneurs. Il faut réussir à vendre à ces collectionneurs prescripteurs. C'est aussi le fait de montrer dans des galeries qui ont évidemment une antenne aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est toute la chaîne qui va se faire comme ça. Et c'est parce que on a accès à la galerie américaine, aux collectionneurs prescripteurs américains, donc évidemment aux musées, puisque les musées américains évidemment fonctionnent avec des trustees qui sont effectivement la plupart du temps des collectionneurs, que évidemment cette reconnaissance va se faire là-bas. Mais ça n'empêche pas du tout aux artistes de rester dans leur pays d'origine, sauf si évidemment le pays est assez isolé et que c'est mieux d'aller aux États-Unis.
Alors je parle sous votre contrôle, évidemment, Nathalie Obalia, la plus grande galerie allemande, elle est à New York.
Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est que les galeries allemandes les plus puissantes aujourd'hui sont à New York, ou en tout cas ne sont pas en Allemagne. Bon, la grande galerie historique, comme Michael Werner, évidemment, est toujours présent en Allemagne, mais on s'aperçoit que depuis une vingtaine d'années, il a ouvert des antennes aux États-Unis et à Londres. Et par contre, les plus jeunes marchands sont partis aux États-Unis, dont, on va dire, David Zwerner, dont le père était d'ailleurs un des créateurs de sa fameuse foire de 1967 à Cologne, a choisi de commencer sa carrière aux États-Unis, qu'il d'ailleurs, après, il a ouvert une antenne en Europe, et cette antenne s'est faite à Londres, il y a 4-5 ans. D'autres galeries rayonnent. Alors, je dirais que l'Allemagne aujourd'hui se fait aussi à partir de Zurich. L'autre, c'est ça qui est intéressant justement avec la Suisse, que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que la grande ville germanophone, celle qui en tout cas occupe le terrain que pouvait occuper l'Allemagne auparavant, c'est Zurich. À Zurich, des grandes galeries à Suisse qui montrent ces artistes allemands et qui ont accès à la grande clientèle justement qui vient d'Allemagne.
Alors, j'en reviens à ma question précédente, une remise en cause de l'hégémonie américaine, point d'interrogation, évidemment on va parler de la Chine. Mondialisation de l'art, on l'a compris. On a pensé il y a quelques années que la Chine allait tout rafler. Ça n'est pas le cas, Nathalie Obalia.
Non, ça n'est pas le cas, donc ça c'est intéressant parce que on le lit, mais je le pratique aussi. Voilà, je le vois puisque je me rends assez souvent en Chine et je participe à la foire de Hong Kong déjà depuis maintenant 5 ou 6 ans. Et c'est là où ce terme de soft power revient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soft power veut dire qu'on véhicule en tout cas des idées positives, qu'on a envie de ressembler à ce pays, en tout cas aux valeurs qui sont transmises, et ce n'est pas le cas de la Chine. Voilà. D'ailleurs, ça se voit tout à fait aussi simplement, c'est que on se rend compte aussi, contrairement aux États-Unis, qu'aujourd'hui, le pouvoir chinois n'a pas envie de mettre en avant un art d'avant-garde, parce qu'il est vu comme subversif. Alors, s'il doit mettre un art en avant, c'est plutôt un art qui est issu de la tradition, même s'il est revu de manière contemporaine, mais issu de la tradition. Et quand on regarde certains discours de Xi Jinping il y a 3-4 ans, c'est assez clair. Mettons en avant les artistes qui défendent nos valeurs et ne singeons pas, d'une certaine façon, l'Occident, donc l'Amérique. Il y a aussi le fait que, quand un collectionneur chinois, ou en tout cas asiatique, envie d'acheter un art d'un certain prix, des artistes d'un certain prix, on s'aperçoit qu'il va se tourner vers des artistes occidentaux et américains. Ce qui est important aussi, contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que quand on voit les pays limitrophes, que sont par exemple le Japon et la Corée, qui est un pays extrêmement dynamique aujourd'hui, ils n'ont pas du tout envie de paraître sinisés, ils n'ont pas du tout envie d'adopter le modèle culturel chinois. Et au contraire, quand on voit la Corée aujourd'hui, qui est un pays extrêmement dynamique, il y a une dizaine d'artistes qui ont une carrière absolument internationale très réussie, donc c'est pour se démarquer de la Chine. Voilà. Et on le voit aussi à travers les musées privés, puisqu'il y a un problème aujourd'hui en Chine, c'est qu'il n'y a pas de musée public. Comme nous, on entend avec justement des conservateurs indépendants, mais c'est plutôt une succession de musées privés, de fondations privées. Et on s'aperçoit que lorsqu'ils veulent faire des entrées et avoir des expositions, en tout cas très reconnues, ils montrent des artistes occidentaux.
On y reviendra sur la Chine, Nathalie Obédia. On vous retrouve après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'art contemporain. Nous retrouvons Nathalie Obédia, galeriste spécialisée dans l'art contemporain. Elle possède deux galeries, l'une à Paris et l'autre à Bruxelles. Elle est également enseignante à Sciences Po et auteure de Géopolitique de l'art contemporain, paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Nathalie Obédia, on a terminé la première partie de l'émission en parlant de la Chine. Vous évoquiez, on évoquait l'idée que la Chine, on s'attendait il y a quelques années à ce qu'elle rafle tout. Elle est quand même le pays qui vient concurrencer directement les États-Unis. En matière de l'art, finalement, elle n'a pas du tout déstabilisé l'hégémonie américaine. La Chine a-t-elle une stratégie institutionnelle pour faire rayonner sa scène culturelle? Je vous pose la question. Vous me disiez que il n'y avait pas de musée public en Chine.
Alors, il y a le grand musée national qui est Place Tiananmen, par exemple, mais qui montre plutôt des œuvres très classiques, soit des antiquités. En tout cas, il ne met pas en avant l'art contemporain chinois. Il y a le problème qui se pose du M+, le fameux musée d'art contemporain qui doit ouvrir à Hong Kong. Et quand on lit évidemment la presse, on s'aperçoit qu'aujourd'hui la Chine continentale est en train de mettre au pas Hong Kong. Et ça se retrouve justement aussi pour ce futur musée qui prend des années pour s'ouvrir. Et on s'aperçoit qu'il y a des problèmes internes quant à savoir quel contenu, parce qu'il y a un regard maintenant de la Chine continentale, quelle exposition à faire. Donc voilà, on se rend compte qu'il y aura peut-être ce musée public d'ici quelques années, avec des conservateurs indépendants, mais avec en tout cas un cahier de charges vraiment très très précis.
La question qui se pose avec les artistes chinois, Nathalie Obédia, si je vous ai bien comprise, c'est que finalement ils ne parviennent pas à véhiculer une image positive de la Chine. Le résultat, ils ont tous émigré.
Alors il y a un certain nombre qui a émigré, et quant à ceux qui restent, pour aller régulièrement dans des ateliers, on s'aperçoit qu'il y a certainement une autocensure latente qui se fait, c'est-à-dire que certains tableaux ou certains contenus, en tout cas, ne sont pas exprimés comme ils l'étaient il y a certaines années. Et puis pour d'autres, effectivement, ils ont émigré en France, d'ailleurs, beaucoup, aux États-Unis aussi. Voilà, donc c'est une situation assez compliquée et qui se voit aussi au moment de la foire de Shanghai. Il y a deux foires à Shanghai avec un certain nombre de galeries occidentales. Il faut adresser la liste des œuvres 4 mois à l'avance qui peuvent être censurées. On a eu l'exemple de collègues qui ont eu plusieurs œuvres censurées pour des raisons qui nous échapperaient. Alors, est-ce que c'est aussi une manière de décourager les galeries occidentales à venir exposer régulièrement à Shanghai? Cela veut dire que ça permet aux galeries chinoises d'être plus à l'aise et d'inciter le collectionneur chinois à collectionner chinois dans les galeries chinoises. Vous voyez, peut-être que tout est fait pour ne pas faire une très grande foire internationale. Vous voyez, donc c'est assez compliqué.
Alors, on poursuit notre tour du monde avec le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine. Quelques mots, Nathalie Obédia, sur le Moyen-Orient.
Alors, le Moyen-Orient est intéressant parce que pour le moment, il vit une situation tout à fait compliquée, très morcelée. On l'a vu avec la foire de Dubaï, à laquelle j'ai participé de nombreuses années et que j'ai cessé de faire, puisque aujourd'hui, avec les problèmes politiques, les axes entre l'Arabie saoudite et l'autre côté, l'Iran, avec évidemment les pays satellites de chacun de ces deux puissances, c'est très compliqué, ça se retrouve sur un stand de foire, puisqu'à un moment donné, effectivement, à Dubaï, vous n'avez plus de collectionneurs venant du Qatar, les Iraniens sont moins vus, même s'ils font beaucoup d'affaires à Dubaï. Voilà, c'est compliqué. Voilà. Effectivement, sur un stand, se rend compte ce qu'est la force des relations géopolitiques. De l'autre côté, ils ont des musées, mais ce sont des musées qui, pour le moment, mettent en avant plutôt des valeurs aussi occidentales. Et c'est là où, effectivement, le rôle de la France est vraiment important, puisqu'avec l'ouverture du Louvre à Abu Dhabi, alors ça c'est vraiment extraordinaire, c'est-à-dire que le savoir-faire justement de notre personnel institutionnel, des conservateurs, des spécialistes dans tous les domaines, fait qu'on va au Louvre à Abu Dhabi et que, pour l'avoir visité tranquillement le 14 juillet l'année dernière, je m'aperçois que la plupart des visiteurs étaient très attentifs et on sentait que pour certains c'était la première fois qu'ils voyaient justement un musée fait de cette manière. Donc ça c'est vraiment très valorisant pour notre culture. Alors il va falloir aussi se battre, parce que dans quelques années, il va y avoir le Guggenheim à côté du Louvre à Abu Dhabi, qui risque effectivement de renforcer l'image aujourd'hui véhiculée
par les Américains,
de se mettre en avant avec l'art plus contemporain. et de laisser au Louvre la partie beaucoup plus classique. Donc c'est là où il va falloir peut-être avoir un tournant aussi plus contemporain avec la politique du Louvre.
Alors c'est intéressant en tout cas de voir la France et les États-Unis en rivalité. Vous parliez du Louvre à Abu Dhabi, on peut parler aussi du centre Pompidou. Pompidou-Metz pour la France, mais Pompidou-Malaga également.
Malaga pour l'Espagne.
Et un projet Pompidou-Shanghai.
Shanghai et Pompidou-Bruxelles. Qui s'appelle le canal. Donc, Pompidou-Shanghai, et là, bon, on le sait que les discussions sont aussi compliquées, puisque les Chinois ne veulent pas, en tout cas, d'un Pompidou-Shanghai qui s'installe avec une politique d'artistes français occidentaux. Ça va être beaucoup plus un partenariat. Ce musée va servir aussi à valoriser certains artistes chinois contemporains. Donc ça va être intéressant à observer.
Mise au pas de l'art, en tout cas, par la Chine. Alors, on poursuit, Nathalie Obadia, avec l'Afrique. L'Afrique, il y a une scène artistique mieux représentée à l'étranger qu'à l'intérieur du continent. Oui. Il n'y a pas de scène homogène, ce sont 54 pays. Le Maroc qui souhaiterait fédérer la scène artistique africaine contemporaine. Est-ce que la question de la restitution des œuvres d'art à l'Afrique peut changer quelque chose sur la place de l'Afrique sur la scène artistique mondiale et sa visibilité ?
Bon, le problème des restitutions se pose pour des œuvres ou des objets plus anciens, non pas sur l'art contemporain. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'avancée sur le dossier, puisqu'il va falloir regarder quels objets, que rendre et où. C'est surtout où, quels sont les musées et quel pays va pouvoir justement accueillir ces œuvres. Alors, on va voir aussi qu'il va y avoir des querelles entre ces pays. Aujourd'hui, ils sont, je veux dire, tous ensemble pour peut-être être d'accord sur cette restitution avec des conditions. Mais si les choses avancent, on va s'apercevoir que ces 54 pays sont rivaux aussi en termes de soft power pour chacun. Le Nigeria va vouloir effectivement se placer face au Gabon ou face à d'autres pays tout à fait importants. Donc, je pense qu'on n'y est pas encore. Par contre, pour la scène contemporaine, c'est aussi très compliqué, comme vous le disiez, c'est que 154 pays, il n'y a pas aujourd'hui de musée d'art contemporain. Un nombre important d'artistes travaillent quand même étrangers à Londres, à Paris ou même aux États-Unis. Il y a peu de galeries prescriptrices là-bas. Mais par contre, la tentative de la foire 1-54, justement, de revenir, alors qu'elle avait été créée au départ pour la scène africaine, à Londres, puis à New York, et de revenir à Marrakech, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que au moins déjà une fois par an, cette semaine, comme ça se passe aussi d'ailleurs pour la foire en Afrique du Sud, ou la Biennale de Dakar d'une certaine façon, voilà, ça permet quand même un rendez-vous et une prise de conscience d'une scène en Afrique qui doit en tout cas être développée.
Il y a un élément important dans tout cela, Nathalie Obadia, c'est que le manque de stabilité politique et économique sont bien sûr des freins pour que le marché dans ces pays devienne solide.
Tout à fait. Qui dit pays puissant, pays avec un soft power qui s'exporte, c'est aussi l'image effectivement d'une certaine stabilité, ce qui n'est pas le cas bien
partout,
entendu en Afrique. Et que si effectivement c'est aujourd'hui le Maroc qui peut être une première étape, c'est aussi parce que le régime pour le moment est quand même très stable.
Et le Maroc qui a donc réintégré l'Union africaine,
je souligne effectivement, ça c'est vraiment un élément tout à fait important pour montrer justement la position du pays à travers le continent.
Alors quelques mots sur l'Amérique latine.
Justement,
compliqué pour ce continent.
Compliqué, c'est un peu le résumé de tout ce dont on parlait, instabilité économique, instabilité politique, problème de danger d'y vivre aussi tous les jours. Donc forcément, c'est compliqué d'avoir des œuvres d'art d'un certain prix chez soi. J'ai visité à plusieurs reprises le Brésil, le Mexique. On s'aperçoit que la plupart des collectionneurs qui ont des œuvres, on va dire, très importantes, ne sont pas forcément dans ces deux pays. Ils ont un pied-à-terre, des maisons à Miami, d'où d'ailleurs le succès de Art Basel Miami, justement.
Où l'art latino-américain est très représenté.
Mais on s'aperçoit aussi que les grandes fortunes de ces pays, comme d'ailleurs ça a été aussi le cas avant au Venezuela, habitent à Miami et les œuvres sont plutôt, on va dire, logées dans cette ville. Voilà, le problème est celui-là. Et puis bon, c'est très difficile à suivre. Le Brésil, il y a 15 ans, était un pays vraiment très stable, avec une école d'artistes contemporains très reconnue. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, à part, c'est les noms déjà qu'on connaît, comme Beatriz Miazès, Neto, ou des artistes comme Tunga, il n'y a pas une nouvelle école qui est en train de sortir.
Et le Mexique ?
Ben, le Mexique, c'est un petit peu le problème aussi. Pourtant, c'est un pays très fort, avec un sentiment national aussi très puissant, mais qui est peut-être le pays, en tout cas, qu'on voit alors ça se voit dans la foire de Art Basel Miami, c'est les galeries mexicaines avec les galeries brésiliennes sont les galeries les mieux représentées de ce sous-continent américain. Mais ça fluctue aussi. À partir du moment où il n'y a pas de stabilité économique et politique, c'est très difficile d'avoir une scène artistique stable.
Alors, avant de parler de la Biennale de Venise, qui donc s'ouvre dans quelques jours, le 11 mai, Nathalie Obadia, il y a un mot qui, dans votre ouvrage, revient de façon récurrente, c'est le mot mimétisme.
Oui, on l'a toujours vu, le mimétisme, c'est de la part notamment des acteurs économiques. Acheter de l'art, posséder de l'art, c'est arrivé à une espèce du degré ultime de l'élitisme. Voilà. Donc ça ne se joue pas tout seul, on le fait parce qu'on veut ressembler à un autre, ou on veut servir de modèle. Donc forcément c'est un jeu à plusieurs, et notamment ça se retrouve avec ce qu'on appelle ces fameux test-makers, ces grands collectionneurs prescripteurs, mais ça se retrouve aussi dans les musées, parce qu'on s'aperçoit que souvent les grands directeurs de musées, les conservateurs, jouent ensemble à un niveau international pour avoir les mêmes artistes. Voilà, c'est d'avoir accès aux artistes, en tout cas les plus reconnus, les plus rares, ceux qu'il est le plus difficile d'acheter pour des raisons de prix, mais aussi de nombre. Acheter aujourd'hui un tableau de Peter Dogg, qui fait peut-être une dizaine de tableaux par an, dans la mesure où il est demandé dans le monde entier, faire partie de ceux qui peuvent être sur la liste d'attente des nouvelles œuvres de Peter Dogg est une forme d'élitisme, et c'est aussi une façon de dire j'appartiens au même monde que Monsieur Pinault ou que Monsieur Ioannou en Grèce. Donc voilà, il y a un jeu comme ça qui se fait au niveau national, mais qui se fait aussi au niveau international. Les artistes, il ne faut pas oublier que les artistes sont très stratèges, les galeries et les ventes aux enchères savent effectivement jouer dans le bon sens de ce phénomène de mimétisme.
Qui sont les grands collectionneurs aujourd'hui, Nathalie Obadia ?
Alors, grands collectionneurs, il y a ceux qui ont des très grandes collections, très personnelles, qui ne font pas vraiment attention à un certain mimétisme, ou même qui sont à l'origine et qui sont, dans le train malgré eux, d'une certaine manière. Et puis, il y a aussi ces grands collectionneurs prescripteurs qui donnent le « là », dont on dit « oui, il est rentré dans la solution ». Ce sont des collectionneurs américains, évidemment, comme Eli Broad à Los Angeles, comme François Pinault, Bérard Arnault aujourd'hui en France, comme Lakis Ioannou en Grèce, qui est effectivement une personnalité tout à fait intéressante et qui vient d'un pays, un petit pays d'une certaine manière, un acteur économique, mais qui a réussi à avoir une reconnaissance extraordinaire. C'est un véritable collectionneur prescripteur. Alors après, il y a la famille du Qatar, bien entendu. Voilà, c'est ceux dont on sait qu'ils ont accès à ce qui est très difficile d'acheter. Voilà, parce que c'est pas qu'une question de prix, mais une question d'accès. Voilà.
Nathalie Obadia, la Biennale de Venise, Laure Prouveau est l'artiste qui représentera la France. Elle est une artiste de votre galerie. Vous serez donc présente, bien sûr, à la Biennale. Quelle est la fonction d'une Biennale comme celle de Venise ? Et j'aimerais qu'on reparle un peu de la place des femmes. Alors, bien sûr, on disait qu'elle était pas à la hauteur de la place des hommes en matière d'art. Alors, l'exception, c'est que vous êtes, vous, galeriste femme. L'artiste qui va représenter la France est une femme également. Alors, pour commencer, la fonction de Biennale comme celle de Venise.
La fonction de la Biennale, finalement, elle a été créée en 1895 pour fédérer les pays, pour que chacun puisse, tous les deux ans, montrer finalement sa création artistique. Vous savez, quand on va dans les jardins aujourd'hui, vous avez ces maisons qui sont comme des ambassades. Et donc, on va voir ce que les États-Unis nous montrent, ce que la France montre. Et d'ailleurs, dans la géographie des pavillons, on s'aperçoit que les premiers sont des espèces d'allées qui montent avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, qui était à la fin du 19e des puissances coloniales très importantes, avec la Russie d'ailleurs, qui est pas loin. Et puis après, les États-Unis, en 1930, tout d'un coup, se sont dit, mais attends, il nous faut une place, qui n'a pas pu être dans cette grande allée, mais elle est quand même centrale. Donc c'est très intéressant dans la géographie des pavillons. D'ailleurs, le dernier qui a pu accéder à un pavillon dans les jardins, c'est la Corée en 1996. Et aujourd'hui, les nouvelles puissances que sont la Chine ou la Turquie qui ont envie de prendre part à cette biennale, L'Inde, c'est la première fois qu'elle y participe. C'est ça qui est un fou. Vous voyez, l'Inde n'a jusqu'à présent jamais eu de pavillon dans les jardins et même un pavillon dans l'arsenal. C'est la première fois et avec des rebondissements que j'ai suivis, c'est assez incroyable de se dire que l'Inde n'arrive pas à se positionner sur ce terrain du soft power culturel à Venise. Et donc, on s'aperçoit que bon, tout le monde essaye d'y trouver sa place. Donc, c'est une manière de s'affirmer. C'est très important. Et donc, pour la France, le fait de le choix de l'artiste qui est montré est un signe très important. Le fait d'avoir choisi cette année Laure Prouveau, qui est une artiste qui a 40 ans, qui est quand même lauréat du Turner Prize, hein, des prix les plus prestigieux au monde, qui a été donné pour la première fois à un artiste français. Le fait que Laure ait été déjà très reconnue à l'étranger, elle a fait des expositions dans les très grands musées, elle est dans la collection publique de très grands musées aussi, c'est donné justement un regard très dynamique de la France. Mmh. Voilà, montrer que on a des artistes qui sont à la fois qui sont français, qui ont fait une partie de leur carrière à l'étranger, mais qui sont très heureux, très fiers de représenter la France, et aussi avec une étendue, on va dire, son langage artistique va aussi bien de l'installation, de la vidéo, que de la tapisserie. Voilà, il y a aussi cet éclatement qui est tout à fait nouveau, et ça, je pense que c'est quelque chose de très important pour la France aujourd'hui.
Alors, on l'a évoqué en première partie d'émission, l'isolement de la France, et on comprend que la France sort précisément de cet isolement. On a parlé du Louvre à Abu Dhabi, on a parlé de ce que fait le musée Pompidou aussi en dehors de nos frontières. Quelques mots sur des hommes comme Bernard Arnault et François Pinault, donc de grands collectionneurs, Nathalie Obadia, dans ce rayonnement de la France à l'étranger.
Alors, c'est vrai que aussi bien François Pinault que Bernard Arnault ont été, on va dire, des agents extrêmement importants pour sortir la France de cette image de pays très reconnu pour l'art moderne. Voilà, ce sont les deux premiers collectionneurs reconnus, qui donnaient leur nom en tout cas, et qui mettaient en avant un art d'avant-garde, que ce soit américain, que ce soit occidental, et français aussi. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont fait partie, ou ils font encore d'ailleurs partie, pour les deux, des collectionneurs les plus influents au monde. Il y a des classements qui se font chaque année, et ils sont au même rang que justement la famille du Qatar, que la Hebro. Donc ça, c'est très très important. Ce sont deux très grandes locomotives et pour l'avoir vécu, derrière, ils ont entraîné un grand nombre de collectionneurs français qui étaient timides, qui ne comprenaient pas ce que ça voulait, ce que le pouvait signifier de collectionneur contemporain et qui ont voulu, par mimétisme justement, collectionner, commencer des collections pour faire comme Monsieur Arnault ou comme Monsieur Pinault. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Ce qui se passait, justement, aux États-Unis, ce qui s'est passé en Allemagne, où il y a eu, justement, ce maillage de collectionneurs, prescripteurs, et qui ont fait avancer, justement, l'art allemand chez eux, ça se passe chez nous, en France, grâce à ces deux personnalités. Voilà. Et aujourd'hui, je le vois à la galerie tous les jours, il y a un renouvellement très important de collectionneurs, quadra, quinquagénaires, qui se mettent à collectionner parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, c'est quelque chose de vraiment fabuleux.
Et est-ce que, ce sera ma dernière question, les artistes français s'y retrouvent dans cette dynamique des collectionneurs que nous évoquions à l'instant?
Alors, ils s'y retrouvent, c'est là où effectivement le bât blesse entre, d'un côté, j'ai la reconnaissance institutionnelle, on a des artistes français qui sont montrés dans les musées les plus prestigieux en Allemagne, aux États-Unis, même maintenant évidemment en Asie comme au Moyen-Orient. Mais on le voit, comme je l'ai dit, ils ne se retrouvent pas après dans les grandes ventes du soir et ils n'atteignent pas les prix des artistes américains et allemands parce qu'on a mis en avant des artistes qui étaient plutôt proches de l'installation, des vidéos et qui étaient très difficilement assimilables par le marché. Alors ce sont, je pense, des critères qui sont en train d'évoluer. Heureusement, parce que c'est là où il faut qu'on rattrape, justement, où à un moment donné, il faut que l'artiste français, parce que on l'entend comme tel sur un stand de foire, je dis toujours, mais un stand de foire, c'est vraiment, la caisse de résonance de tout le système, où on nous dit, bon, voilà, on veut bien acheter un artiste français, mais il faut qu'on soit sûr que dans les années à venir, il soit aussi, apprécié par le marché que les artistes anglais, allemands ou américains.
Et c'est aussi peut-être un appel au retour à la peinture pour les artistes français?
Alors, il a jamais été absent. La peinture n'a jamais été absente. Simplement, il faut qu'elle soit plus reconnue, effectivement, par ceux qui font qui font le goût et qui donnent des décisions à travers les institutions, ça c'est sûr.
Merci Nathalie Obadia. Je rappelle que vous êtes galeriste spécialisée dans l'art contemporain, que vous possédez deux galeries, l'une à Paris, l'autre à Bruxelles, que vous êtes également enseignante à Sciences Po et auteur donc de Géopolitique de l'art contemporain, paru aux éditions Le Cavalier Bleu, cette édition qui s'inscrit dans la perspective de l'ouverture le 11 mai prochain de la Biennale de Venise. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons des nationalismes en Europe. À demain.